Vous écoutez, on lit pour vous.
Le hashtag Moi aussi de José Blanchette. Un texte de Sylvia Galipeau, paru le 21 septembre 2024 dans La Presse. Elle avait 15 ans. Lui, 45. Elle portait des robes fleuries, rêvait d'absolu. Lui enseignait l'antiphilosophie. Elle était presque vierge, mais pas exactement pour longtemps. Leur histoire durera 5 ans. Plus de 40 ans plus tard, José Blanchette se raconte. C'est son hashtag moi aussi. C'est ainsi qu'elle dédicace son livre « Presque vierge » publié aux éditions Druide. C'est aussi ce qui résume le mieux son récit, une histoire dérangeante où elle a longtemps porté des lunettes roses, comme elle dit. Lui, des lunettes fumées, résume ici l'autrice et chroniqueuse du Devoir, à la langue visiblement aussi imagée à l'oral qu'à l'écrit. Nous l'avons rencontrée il y a quelques jours et on s'attendait à voir une femme fébrile. Après tout, son histoire sort enfin, sur papier. D'emblée, elle rétorque que non. Ce livre, elle le mijote depuis longtemps. Sa première version précède même le « Consentement » de Vanessa Springora, paru en 2020. Elle parle d'une promesse faite à elle-même qui remonte à loin. Une photo de « lui » qu'elle désigne simplement par « R » dans le texte, pour des raisons juridiques évidentes, collée dans le coin de son ordi, à côté de son propre portrait à 15 ans, lui ont fait de l'œil des années durant pour la lui rappeler. Elle attendait le bon moment. Ce moment est venu. Avec mon éditrice, on parlait même de José à la troisième personne, assure-t-elle, comme s'il fallait qu'on la distingue. Je me suis un peu dissocié. J'imagine que c'est une façon de se protéger. Fort bien. N'empêche que, quand elle nous demande ensuite comment nous, on a digéré son histoire, cette relation troublante entre une jeune fille au regard d'enfant et son prof de cégep, on a à peine le temps de lui dire qu'on a 3 filles, dont une au cégep, justement. Illico, les yeux de José Blanchette se remplissent d'eau. Ils ne dérougiront pas de l'entretien. Je ne suis pas complètement insensible, concède-t-elle, sans cacher son émotion. Les filles au cégep, c'est le dossier qui vient me chercher. Les gens pensent que ça n'arrive qu'aux autres, s'enflamme-t-elle. Les gens pensent que ça appartient aux années 1970, mais c'est parce qu'ils ne veulent pas voir. Libérer la parole. Presque vierge, n'est pas encore en librairie que José Blanchette reçoit déjà quantité de témoignages. « Ça déboule, dit-elle. C'est affolant. Des femmes qui n'ont jamais osé commencent à parler. Tant mieux. Parce que c'est précisément pourquoi elle a voulu ici se raconter. Je n'ai pas écrit pour le dénoncer, dit-elle. J'ai écrit pour les femmes. Je veux faire taire le silence. Parce qu'il y a tellement de femmes agressées. Mais les femmes ne parlent pas. Elle n'écrit pas pour le dénoncer, entre autres parce qu'il a déjà fait de la prison, 18 mois, pour une affaire d'attouchement sexuel sur une fillette de 9 ans cette fois. C'est en lisant la nouvelle il y a quelques années, au sujet de ce même R, son professeur, un intellectuel bardé de diplômes qu'il avait soi-disant choisi, que José Blanchette s'est enfin remise à son manuscrit. Pour de bon cette fois. En lisant l'article, ce jour-là. C'est la douche froide. Son château de cartes, de plus en plus bancal depuis que son fils a 15 ans, lui aussi, s'effondre. « Tout s'écroule, dit-elle. Je passe de l'élu au symptôme d'une maladie. » Elle replonge alors dans ses souvenirs, ses boîtes, ses journaux intimes. Elle a tout gardé, ses échanges épistolaires, ses travaux de cégep et surtout ses annotations à lui. Plusieurs sont retranscrites dans le texte. Plus de 40 ans plus tard, c'est limpide. C'est ahurissant, confirme José Blanchette. C'est de la prédation. Il m'a manipulé, il m'a volé ma jeunesse, ajoute-t-elle, paraphrasant sa voisine et amie Manon, une rare proche avec son père, à s'être rigoureusement manifestée contre la relation. Mais je ne savais même pas que j'étais jeune. Or, aujourd'hui, elle le voit. « Je ne suis plus la même femme, » dit-elle, avant de se reprendre. « Je n'étais même pas une femme. » C'est un fait. C'est de l'exploitation sexuelle. C'était une personne d'autorité. Mon consentement n'était pas valide, d'autant plus que, pour la majorité de leur histoire, elle n'était pas majeure, justement. Pendant ce temps, monsieur l'amenait voir Lolita au cinéma, et tout le monde fermait plus ou moins les yeux sur leur couple pour le moins inhabituel. À noter que dans le texte, l'autrice se garde une certaine pudeur et ne commente que très peu les faits. « Je me suis effacée, » dit-elle. « Je voulais que les lecteurs se fassent leur propre jugement. » Ses premières ébauches étaient toutefois plus en colère. Ici et là, celle-ci transparaît, notamment quand elle évoque la sainte bite de monsieur dans une rare envolée ô combien sentie. « Je ne me doute pas que sa bite est coincée, » « dans la fermeture éclair de son cerveau », écrit-elle, avec la plume qu'on lui connaît. José Blanchette n'écrit pas pour le dénoncer, on l'a dit, entre autres parce qu'à 90 ans passés, il est sans doute hors d'état de nuire, dit-elle. Mais cette histoire se peut toujours. Les prédateurs, il y en a 10 fois plus sur le web aujourd'hui. Il ne faut pas sous-estimer les traumatismes qu'on peut traîner une vie. Moi, je veux que les femmes parlent, que les hommes embarquent dans la discussion et qu'ils nous protègent. Quand enfin elle le quitte, elle vient d'avoir 20 ans. C'est à peine quelques mois avant de signer la première d'une longue série de chroniques dans Le Devoir. « Waouh !» réagit celle qui fait pourtant partie du paysage médiatique depuis 40 ans, en réalisant le rapprochement « jamais fait jusqu'ici. » Son histoire, qui semblait a priori si loin dans le temps, ne l'est tout à coup plus du tout. C'était le hashtag « Moi aussi » de José Blanchette, un texte de Sylvia Galipeau, paru le 21 septembre 2024 dans La Presse.
Est-ce un bon moment pour acheter une auto électrique? Un texte de Jack Ewing du New York Times, paru le 9 septembre 2024 dans La Presse. Les véhicules électriques sont plus chers que les voitures à essence et certains se déprécient plus vite. Même pour les gens soucieux du CO2, la question se pose : est-il censé d'en acheter un maintenant? La réponse est peut-être oui. Mais les facteurs à considérer sont multiples. Cela dépend de vos habitudes de conduite. Cela dépend aussi de la valeur que vous accordez à la réduction de votre empreinte de carbone. Et comme l'auto électrique est une technologie nouvelle, les prévisions de dépréciation sont moins certaines que celles concernant les véhicules à essence. La durabilité de la batterie. La voiture électrique est assez récente, alors les données sur la vie utile des batteries ne sont pas encore très fiables. Mais on sait que les batteries lithium-ion perdent de leur capacité au fil du temps. Mais la dégradation est très lente. Tesla et les autres constructeurs ont muni leurs batteries d'un logiciel qui les protège contre la surchauffe et, en particulier, de la surtension durant la recharge. La loi américaine exige que les constructeurs garantissent les batteries des autos électriques pendant 8 ans ou 100 000 miles, 161 000 kilomètres. Mais ceux-ci interprètent cette règle de différentes façons. En général, ils remplaceront la batterie si elle perd plus de 30 % de sa capacité pendant la période de garantie. Une chose à noter, les batteries fonctionnent dans des conditions de froid et de chaleur extrêmes, mais l'autonomie est réduite. On a documenté de nombreux cas d'auto électriques ayant roulé des centaines de milliers de kilomètres. La probabilité de devoir remplacer une batterie est inférieure à 1 % pour les véhicules construits à partir de 2016, selon Recurrent, une société qui analyse le marché des véhicules électriques d'occasion. Tout indique que les batteries sont plus durables que les autos elles-mêmes, résume Liz Nagman, directrice des études de marché chez Recurrent. Nul doute que leur vie utile est aussi longue que la durée de vie moyenne d'une auto à essence. Comme ces batteries contiennent des métaux précieux recyclables, lithium, cobalt, etc., même une batterie bonne pour la casse aura encore une certaine valeur. La valeur de revente. Le prix des électriques d'occasion a beaucoup fluctué. En 2022, les voitures électriques étaient rares et très recherchées. Certains modèles se vendaient plus cher que le prix payé à l'origine. Aujourd'hui, il y a plus de 100 modèles électriques sur le marché et la valeur de revente de certains modèles a chuté. Aux États-Unis, en moyenne, les véhicules électriques se sont dépréciés de 49 % sur 5 ans, 39 % pour tous les véhicules, selon cars.com, un site de vente d'automobiles. Mais des facteurs ponctuels ont joué, notamment quand Tesla a réduit le prix de ses nouveaux modèles. Pourquoi acheter une auto d'occasion si la neuve est au même prix? Souligne Karl Brauer, analyste chez Seekers. Hertz a inondé le marché en mettant en vente 30 000 voitures de son parc électrique parce qu'elle perdait de l'argent avec ses véhicules. Le lancement de modèles concurrents par Hyundai, Kia, Ford et GM a aussi influé sur les prix. Toutefois, les prix sur le marché d'occasion semblent se stabiliser. Selon John Helveston, professeur à l'Université George Washington, les nouveaux modèles qui ont plus d'autonomie ont conservé leur valeur. Le taux de dépréciation des électriques s'approche de celui des véhicules à essence, mais nous n'en sommes pas encore là, dit-il. Louer est une façon de minimiser le risque de dépréciation accélérée, surtout si une percée technologique rend les modèles actuels obsolètes. À l'expiration du bail, la dépréciation est le problème du concessionnaire. Autre option, acheter un modèle d'occasion déjà déprécié. Selon certaines estimations récentes, certaines électriques d'occasion coûtent moins cher que leurs équivalents à essence. C'est une excellente solution, affirme M. Helveston. Plus jamais d'essence. À l'achat d'une voiture, les gens considèrent d'abord le prix d'achat. Selon Cox Automotive, le prix moyen combiné des autos et des camionnettes électriques neuves était de $56,371 en juin 2024 contre $48,644 pour ces véhicules, toutes les sources d'énergie confondues. Mais cet argent se récupère sur la durée. Plus jamais d'arrêt à la pompe, coût d'entretien réduit. Selon les autorités environnementales américaines, recharger un Ford F-150 Lightning coûte $1,100 par an, moins de 50 % de ce que coûte à la pompe le modèle de F-150 le plus sobre. Ces économies varient en fonction des prix de l'essence et de l'électricité, et aussi de la façon de conduire. L'entretien est moins cher parce qu'il y a moins de pièces susceptibles de se briser dans un moteur électrique. De plus, on dit adieu au vidange d'huile et au remplacement de bougies d'allumage ou de silencieux. Par contre, les pneus s'usent plus vite en raison du poids élevé de la batterie. Fournir sa part d'effort pour la planète. Certains avantages de l'auto électrique sont difficiles à chiffrer. De nombreux propriétaires tirent satisfaction de rouler sans laisser derrière eux un nuage de gaz à effet de serre et d'autres polluants, même si aucun véhicule n'est sans incidence sur l'environnement. Selon une étude du Laboratoire national Argonne de Lemont, en banlieue de Chicago, une berline électrique intermédiaire ayant une autonomie de 480 km produit au cours de son existence deux fois moins de gaz à effet de serre qu'une voiture à essence comparable. Cela tient compte des émissions provenant de l'extraction minière, de la construction et de la production d'électricité. Les véhicules électriques ne produisent pas d'oxyde d'azote ni d'autres polluants à l'origine de l'asthme et d'autres problèmes respiratoires. De nombreux utilisateurs apprécient l'accélération et le silence des véhicules électriques, ainsi que la possibilité de les recharger à la maison. La somme des avantages et des inconvénients justifie-t-elle de payer plus cher? C'est une question de préférence personnelle. Les subventions. À toutes ces considérations s'ajoute la question des incitations gouvernementales et de leur fin éventuelle. Le programme québécois Rouler vert doit prendre fin en 2027. Le programme fédéral se poursuit jusqu'au 31 mars 2025 ou jusqu'à ce que les crédits votés soient épuisés. C'était Est-ce un bon moment pour acheter une auto électrique? Un texte de Jack Ewing du New York Times, paru le 9 septembre 2024 dans La Presse.
Une histoire éclairante et divertissante des lois de la mode du Moyen Âge à nos jours. Un texte de la rédaction paru le 10 janvier 2024 dans le journal La Source en Colombie-Britannique. Dans un ouvrage intitulé « Dress Codes, How the Laws of Fashion Made History », Richard Thompson Ford, un auteur réputé de livres portant sur des questions de racisme, d'égalité, de multiculturalisme et de l'influence des normes de la société sur le changement social et la justice, dresse un portrait inédit sur le cheminement historique des lois de la mode du Moyen Âge à nos jours. Également avocat et professeur de droit à l'Université Stanford, il est aussi un spécialiste des droits civils et de l'anti-discrimination. Pour Richard T. Ford, les codes vestimentaires remontent à aussi loin que les vêtements. Depuis des siècles, le vêtement constitue un symbole de statut social que l'on porte sur soi. La mode, une arme dans les luttes pour le changement social. Et les codes vestimentaires, un moyen de maintenir un contrôle politique. Les marchands qui s'habillent en princes et les femmes de boucher qui portent des couronnes incrustées de pierres précieuses sont perçus comme des ennemis publics dans les sociétés médiévales structurées par la hiérarchie sociale et définies par le spectacle. Dans l'Angleterre des Tudors, poursuit Richard T. Ford, la soie, le velours et la fourrure étaient réservés à la noblesse, et les pantalons bouffants, appelés hauts de chausse, pouvaient être considérés comme une menace à l'ordre public. Cosme de Médicis, patriarche florentin de la Renaissance, a bien saisi le pouvoir de la mode et des codes vestimentaires avec cette remarque. « 2 mètres de tissu rouge suffisent à fabriquer un gentilhomme. » Les codes vestimentaires ont évolué avec les idéaux sociaux et politiques, mais ils ont toujours reflété les luttes pour le pouvoir et le statut. Au XVIIIe siècle, le Negro Act de la Caroline du Sud interdit aux Noirs de s'habiller au-dessus de leurs conditions. Dans les années 1920, les robes confortables et les cheveux coupés au carré des garçons à l'esprit libre ont été interdits sur les lieux de travail de tous les États-Unis et, dans les années 1940, les zoot suits que portaient les hommes noirs et latinos ont provoqué des émeutes dans les villes d'un bout à l'autre du pays de l'Oncle Sam. De nos jours, même si l'on vit dans un monde où les règles formelles prennent moins de place, souligne Richard T. Ford, les codes vestimentaires déterminent ce que l'on porte, quand on le porte et la signification des vêtements. Des cheveux tressés, des ongles longs, de grandes boucles d'oreilles, une barbe ou des tatouages peuvent causer un licenciement. Et même en l'absence de règles écrites, les codes vestimentaires implicites continuent d'influencer les perspectives et l'avancement social. Les PDG de la Silicon Valley portent des t-shirts et des sandales, donnant ainsi le ton à toute une industrie. Les femmes portant des robes chics ou des talons hauts sont ridiculisées dans le monde de la technologie et des sociétés de capital risque refusent d'investir dans une entreprise dirigée par quelqu'un qui porte le costume. Dans Dress Codes, Richard Thompson Ford, professeur de droit et critique culturelle, présente une histoire éclairante et divertissante des lois de la mode du Moyen-Âge à aujourd'hui. Son livre s'intéresse à l'importance de la culture populaire de tous les jours pour le pouvoir politique, la hiérarchie sociale et l'autonomie individuelle, la portée mondiale de l'industrie de la mode et l'influence internationale des règles et normes vestimentaires et de la présentation de soi constitue un aspect important mais négligé de la mondialisation du commerce, de la culture populaire et de l'idéologie politique. Dans la perspective de pensée de l'auteur, ce mélange audacieux de critiques culturelles, de jurisprudence, d'histoire et de sociologie ajoute une méthodologie qualitative essentielle à l'étude des économies mondiales, thème du cycle 2022-2025 du programme de leadership de la Fondation Pierre-Elliott Trudeau. Il est important de mentionner que Richard Thompson Ford a acquis la réputation d'être une voix éclairée et un auteur percutant sur les questions de racisme et de multiculturalisme. Sa recherche allie critique sociale et analyse juridique. Il écrit tant pour les amateurs de lecture populaire que pour les universitaires et les juristes. Ses travaux portent sur les conflits sociaux et juridiques liés aux plaintes pour discrimination, les causes et les effets de la ségrégation raciale, ainsi que l'utilisation des frontières territoriales comme instrument de régulation sociale. Rappelons que Richard Thompson Ford est l'auteur de plusieurs ouvrages et que Dress Codes or the Laws of Fashion Made History est son plus récent livre. En somme, c'est un auteur et un universitaire au parcours hors normes. C'était une histoire éclairante et divertissante des lois de la mode du Moyen-Âge à nos jours, un texte de la rédaction paru le 10 janvier 2024 dans le journal La Source en Colombie-Britannique.
La Cour suprême confirme la suspension du réseau social X. Un texte de l'agence France-Presse paru le 3 septembre 2024 dans la presse. São Paulo. La Cour suprême du Brésil a confirmé lundi 2 septembre 2024 la décision de l'un de ses juges de suspendre le réseau social X pour avoir ignoré une série de décisions judiciaires liées à la lutte contre la désinformation. Le réseau, propriété du milliardaire américain Elon Musk, a commencé à être bloqué dans le pays aux premières heures de samedi, 31 août 2024, quelques heures après que le juge Alexandre de Moraes eut ordonné sa suspension dans les 24 heures. Le juge du tribunal fédéral suprême et figure de la lutte contre la désinformation au Brésil mène un bras de fer avec le milliardaire américain sur la question des limites de la liberté d'expression. Cinq magistrats de la Cour suprême, dont M. Moraes, ont confirmé en session virtuelle la mesure prise vendredi 30 août 2024. Elon Musk a démontré son manque total de respect pour la souveraineté brésilienne et en particulier pour le pouvoir judiciaire en se positionnant comme une véritable entité supranationale immunisée contre les lois de chaque pays, a déclaré le juge Moraes. Ce dernier avait donné 24 heures à la plateforme pour nommer un représentant légal dans le pays sous peine de blocage. Après le rejet de l'ultimatum, il a décidé la suspension immédiate, complète et intégrale du réseau au Brésil. La liberté d'expression est le fondement de la démocratie et au Brésil, un pseudo-juge non élu est en train de la détruire à cause de motivations politiques, a tenu le milliardaire américain. La liberté d'expression ne protège pas des violations répétées du système judiciaire, a déclaré le juge Flavio Dino, ancien ministre de la Justice du président Luiz Inácio Lula da Silva. La suspension intervient un peu plus d'un mois avant des élections municipales qui permettront de mesurer le rapport de force entre le camp du président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva et la droite qui fait volontiers d'Elon Musk son champion. C'est l'inévitable apothéose d'un conflit qui fait rage depuis des mois, a affirmé l'association Reporters sans frontières. Si l'organisation considère que le blocage de X est regrettable, d'autant plus que la plateforme est très utilisée par la communauté journalistique, elle estime cette décision justifiée au regard du refus constant de la plateforme de répondre aux demandes répétées des autorités de se conformer à la loi. L'ancien réseau Twitter compte 22 millions d'usagers dans le pays, selon l'estimation du site spécialisé Data Reportal. C'était « La Cour suprême confirme la suspension du réseau Social X », un texte de l'agence France-Presse paru le 3 septembre 2024 dans La Presse.